French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Salut et bienvenue dans French Expat. Moi, c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes. Si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce, dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là, et belle écoute.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde afin de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec vous et avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter une expat que j'ai moi-même rencontrée il y a quelques mois sur les pistes cyclables autour de Boston en promenant mon petit Félix en landau pendant les courtes journées enneigées de l'hiver bostonien. Elsa a un parcours très original puisqu'elle a grandi en Martinique et fut élevée entre deux cultures très fortes par une maman normande et un beau-père martiniquais. C'est après le bac qu'Elsa prend la direction de Paris pour sa première expatriation. Un véritable choc culturel, comme elle le décrit elle-même, peut-être même plus important que lors de sa véritable expatriation au sens propre du terme lorsqu'elle s'installa à Boston quelques années plus tard. Je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter Elsa. Bonjour Elsa et bienvenue sur le podcast.
Bonjour Anne Fleur, merci à toi de me recevoir.
Avec grand plaisir. Alors, on va rentrer carrément dans le vif du sujet. Ce que j'expliquais, donc, c'est que tu as un parcours où tu as fait deux expatriations, si je puis dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Qui étais-tu avant de partir, donc peut-être pour la première fois en région parisienne? Voilà, si tu peux nous raconter un peu tout ça.
Alors oui, c'est deux expatriations qui sont pour le coup très différentes, mais toutes les deux assez fortes. Donc la première, j'étais une jeune fille de même pas 18 ans quand j'ai eu mon bac et que je suis donc partie faire mes études à Paris. J'ai quitté la Martinique où j'avais passé toute ma vie pour aller en prépa à Paris. Et là, ça a été premier petit choc. Entre autres culturels, même s'il n'y avait pas pour le coup de choc en termes de changement de langue, mais en termes de culture, c'était quand même différent. En termes de température.
Ah oui, la météo, ça aurait été le ce à quoi j'aurais pensé immédiatement, effectivement. Alors, quel type de choc culturel est-ce que tu as rencontré?
Typiquement, alors déjà, il y avait la difficulté de l'éloignement de ma famille. Même si c'est pas pour le coup la partie choc culturel le principal, mais c'était quand même ça. Et le rythme parisien, culturellement, c'est quand même très différent.
Mais Paris, c'est pas la France.
Paris, c'est pas la France, mais c'est là que je suis allée. Donc c'était ça ma comparaison a été de passer de ma petite ville en Martinique à Paris, quoi. Donc quand même choc sur pas mal de points de vue, notamment en termes de rythme. Ouais.
D'accord. Et alors, du coup, tu n'étais jamais allée en France métropolitaine avant cette expérience ?
Si, j'étais allée, donc comme tu l'as dit, ma maman est normande. Et donc, j'étais allée souvent pour mes vacances, on allait en Normandie. J'allais en Normandie. C'était principalement la région où j'étais allée en France.
Et du coup, en fait, quand est venu le temps pour toi, après le bac, d'aller faire tes études, ça a été la France automatiquement ? Tu t'es pas dit, parce que t'es en Martinique, finalement, t'es même plus proche des États-Unis, tu t'as pas du tout pensé à un autre pays ou un autre coin ?
Non, c'était vraiment la question se poser de est-ce que je restais en Martinique ou est-ce que j'allais en France métropolitaine, quoi. La question était vraiment là-dessus. Je me suis pas posé la question d'aller ailleurs. Je voulais faire une prépa, donc c'était logique de rester pour moi en France. Après, Martinique ou ailleurs, c'était plus ça la question.
D'accord, d'accord. Et alors du coup, tu as fait une prépa scientifique de mémoire, et tu as fait tes études d'ingénieur en France, c'est ça ?
Exact. Donc j'ai fait ma prépa scientifique à Paris. Et après, je suis partie faire mon école d'ingénieur près de Toulouse, à Albi.
D'accord. Et alors là, la vie un peu plus cool. Enfin, raconte un petit peu les différences, du coup. Comment ça s'est passé ?
Alors déjà, j'ai retrouvé le soleil, qui m'a fait bien plaisir. Fini la grisaille parisienne. Ensuite, c'est vrai que c'était quand même un peu plus cool, un rythme un peu plus relax. Et puis en plus, j'étais plus en prépa avec ce stress qui rajoutait en plus à Paris à tout le reste. Donc c'était quand même très différent. Être en école d'ingénieur, c'est pas la même vie que, n'est-ce pas, que d'être en prépa. Donc pour le coup, c'était, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise une fois à Albi qu'à Paris.
D'accord. Et alors, il y a une anecdote, moi, qui m'a fait beaucoup rire quand on a discuté en préparant cet épisode. Est-ce que tu peux me parler des piscines à Paris?
je me souvenais même pas que je t'avais dit ça, en fait. J'allais à la piscine. Moi, c'était, donc, je faisais de la natation synchronisée, pour être précise, en Martinique. Donc, j'allais à la piscine plusieurs fois par semaine. Et c'est quelque chose que j'aimais faire, d'aller à la piscine. Et quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, chouette, je vais continuer à aller à la piscine. Ça va me faire une activité à côté de la prépa. Et puis je suis arrivée dans les piscines et j'ai découvert qu'en fait c'était des piscines fermées, quoi, et que c'était pas comme ça en Martinique. Et pour moi, c'était une évidence que toutes les piscines étaient ouvertes. J'avais pas réfléchi très loin. Hein.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule piscine couverte en Martinique, en tout cas à ta connaissance.
Non.
C'est dingue. C'est génial. J'adore cette histoire.
C'était vraiment quelque chose. C'était une découverte. Je me suis sentie bête a posteriori, mais pour moi c'était évident.
Ouais, c'est ça. Tu t'as grandi comme ça, quoi. Non, c'est génial. Voilà. Et alors, donc du coup, te voilà. Tu as fait ta prépa, tu as fait ton école d'ingénieur à Albi, et puis finalement, au lieu de rentrer directement en Martinique parce que tu t'es passé par pas mal de chocs culturels, t'as quand même décidé de rester. Alors pourquoi ?
Ah, pour plusieurs raisons, parce que je m'y plaisais bien quand même, parce que mon chéri était à Paris.
Mais c'est toujours ça, les histoires d'amour.
Voilà, c'est ça, on est bien bêtes. Hein. et puis du coup, je voulais... Donc après, quand j'ai fini mon école, j'ai voulu retourner vivre à Paris, du coup, pour lui principalement...
Oui, pas pour la météo.
C'était pas vraiment pour la météo, voilà. Et puis, en fait, à force de chercher un travail à Paris, j'ai fini par en trouver un à Montpellier. Et je suis donc partie m'installer à Montpellier.
D'accord.
Voilà, ce qui au final était quand même plus pratique que Albi, qui est quand même assez loin de Paris et pas très pratique en termes d'accès. Donc, je me suis retrouvée à Montpellier qui, alors là, était encore plus proche de ce que j'aimais bien en termes de météo et de proximité de la mer.
Donc, royal. Et alors, du coup, c'est après ou pendant cet épisode à Montpellier, corrige-moi si je me trompe, que tu as décidé de partir à Boston. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé tout ça ? Tu peux nous raconter ?
Alors, c'était un petit peu après. En fait, donc, j'ai fait 2 ans à Montpellier, puis je suis repartie vivre à Paris à un moment donné. Et une fois de retour à Paris, c'est là que s'est posée la question de quitter Paris quand même. Hein. C'était quand même quelque chose que je voulais faire.
Mais monsieur aussi voulait quitter Paris.
Voilà, c'est ça. Bah, lui, en fait, il faisait une thèse et après sa thèse, l'idée, c'était qu'on quitte Paris. Et du coup, la question est venue de où on allait aller dans son domaine, donc dans la recherche médicale. C'est vrai que il y a beaucoup de grands laboratoires à l'étranger. Donc, on s'est assez rapidement mis d'accord sur le fait qu'on était d'accord pour partir vivre à l'étranger. L'étranger, c'est vaste. Du coup, j'avais mis quelques critères qui ont été très respectés puisque je lui avais demandé, si possible, une ville pas trop grande et avec peu d'hiver.
Ah ouais,
bien, à Boston.
D'accord.
Voilà.
Et donc ton chéri t'écoute pas vraiment là ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, en fait, en septembre, on va dire à peu près, pour mettre petit un niveau timing, parce que ça peut paraître long ou pas très long pour certains. En septembre, il a commencé à chercher un poste. Il a eu des premiers entretiens en, je sais plus, novembre-décembre à peu près.
Donc un peu partout aux US, du coup.
Voilà, okay. Y compris, donc le premier était à San Diego.
Mm-hmm. Ça aurait été sympa, ça.
Voilà, San Diego, la Floride, il a aussi eu des entretiens à New York, Boston, mm-hmm. Enfin voilà, différentes choses. Et pour plusieurs raisons, on a été d'accord pour dire que, entre autres professionnellement pour lui, c'est vrai que Boston, ça reste une grande ville, c'est difficile de résister aux grandes universités. Et dans son travail, c'est vrai que c'était difficile de résister à l'offre qui était faite à Boston.
D'accord. Puis c'est vrai.
Du coup, on a décidé de venir vivre ici.
D'accord, d'accord. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas, donc Boston, c'est un gros hub médical où on a quand même parmi les plus grands hôpitaux américains, même certains au monde. Y a la Harvard Med School aussi qui est affiliée à beaucoup des hôpitaux et voilà. Voilà. Juste pour clarifier, pour ceux qui ne connaissent pas trop le coin. Merci d'avoir expliqué comment est-ce que tu es arrivée ici. Alors, comment s'est passé ton arrivée ? Comment s'est passé ton premier hiver ? Moi, du coup, ça m'intéresse.
Donc, on est arrivé à Boston fin août. Et donc, comme je disais, je n'étais pas non plus extrêmement motivée pour venir vivre à Boston. J'avais un peu peur de l'hiver. Ouais. Et c'est vrai que...
T'es arrivée en quelle année, du coup ?
Alors, en 2017.
D'accord.
En fin août 2017. Et c'est vrai que l'hiver me faisait un peu peur. Et j'étais tellement assez négative sur le sujet. Et j'appréhendais tellement qu'en fait, il s'est plutôt bien passé. J'étais agréablement...
Comment ça, il n'y a pas eu beaucoup de neige ou qu'est-ce qui s'est passé ?
Il y a eu quand même beaucoup de neige, mais je l'ai beaucoup mieux vécu que je ne le pensais, en fait. Et je me suis tellement préparée à ce que ce soit difficile, je crois, que au final, j'ai trouvé que c'était une fois qu'on avait des vêtements appropriés, j'ai constaté qu'en fait, on pouvait survivre à moins 20. voilà.
Tout est une question d'équipement, en fait.
Oui, alors les gens le disaient, mais c'est vrai que avec un vrai manteau costaud, on est quand même mieux.
Des manteaux comme on ne trouve pas en Martinique.
non, ça, on risque pas.
D'accord. Et alors, donc, du coup, de mémoire, vous êtes mariée, en fait, juste avant d'arriver à Boston pour pouvoir avoir ton visa, c'est ça ?
Ouais, en fait, donc quand on a envisagé de partir, j'ai voulu moi trouver mon propre visa et être dépendante en me disant, comme beaucoup, j'ai voulu me dire voilà, non, on va pas se marier parce qu'on part, on se mariera parce que on a très envie de faire une fête, etc. Et puis en fait, comme je disais, il a commencé ses entretiens vers octobre, novembre à peu près. En fait, c'est allé assez vite. En février-mars, il avait les premières réponses. On a commencé à faire des choix pour un départ l'été. Et c'est vrai que moi, entre-temps, j'ai pas réussi à trouver, moi, d'entreprise sponsorisant mon visa. Et donc, en juin, on a pris la décision, peu avant le départ, de se marier. Mais évidemment, parce qu'on s'aimait très, très fort.
Évidemment.
Mais voilà, donc on a pris cette décision de se marier, comme je pense beaucoup, assez rapidement. Hein. Donc en 3 semaines, on a fait un mariage en petit comité et on a enchaîné sur les papiers, le visa et on était à Boston fin août.
D'accord. Et alors du coup, tu étais sur quel visa ?
Donc moi, je suis arrivée sur un visa J2, donc conjoint du J1. qui me permet, demandant une autorisation complémentaire, de travailler.
Ah, d'accord. Donc, du coup, tu as pu travailler tout de suite en arrivant ou tu as dû justement lancer la procédure
Donc, c'était un des choix pour lesquels on avait opté pour ce visa parce qu'on avait le choix avec un autre visa, le H1B pour ceux qui connaissent. Et le conjoint du H1B ne pouvant pas travailler, on s'était orienté vers le visa J1 et J2. Et une fois arrivé, il a fallu donc faire les démarches de sécurité sociale, etc. Mais surtout lancer la demande d'autorisation de travail que j'ai faite dès que je suis arrivée, puisqu'en plus j'avais déjà un numéro de sécurité sociale américain. Donc ça a accéléré le mouvement et, en 2 mois, je pouvais travailler.
Ah oui, d'accord, super rapide. Alors, comment ça se fait que tu avais déjà un numéro de sécu américain ? Tu étais déjà venue aux États-Unis ?
Oui, j'avais fait, donc pendant mon école d'ingénieur, j'étais venue pour un stage. Pendant 6 mois, j'étais allée dans le Colorado.
Génial, j'adore cet état.
C'est vrai que c'est plutôt très sympa. En plus, j'y étais l'été et j'avoue que c'était extrêmement agréable. Et j'avais eu l'opportunité de faire un stage là-bas. J'y étais allée et j'avais vraiment adoré.
D'accord. Ok, alors donc du coup, donc tu as pris 2 mois le temps donc que ton autorisation de travail arrive. Qu'est-ce que tu as fait donc de ces 2 mois où tu es arrivé, où tu as découvert une nouvelle ville ? Est-ce que tu as réussi à connecter un peu avec la communauté locale ? Comment est-ce qu'on se sent à la maison dans une nouvelle ville avec une nouvelle langue, même si tu parlais anglais ? Raconte un petit peu.
Alors c'est vrai que c'était pas évident. Parce qu'on arrivait dans un endroit, donc moi, on avait une connaissance ici qui nous a logés à notre arrivée et ce qui, je dois dire, était d'une très grande aide. Et donc, pendant ces 2 mois, j'ai commencé par chercher un logement, ce qui n'est pas si simple.
Ah ouais, surtout à Boston à cette période-là et la rentrée.
C'est ça, c'est pas si simple. On avait loupé le coche du 1er septembre où ici, c'est incroyable à quel point tout le monde déménage ce jour-là. Donc, en fait, on est arrivé et j'ai passé le plus clair de mon temps au départ à visiter des apparts et à chercher quelque chose à un tarif raisonnable, ce qui n'est pas évident à Boston. Et c'était ma principale activité au départ. Et ensuite, je me suis attelée à essayer de rencontrer des gens, ce qui n'est pas non plus simple. Donc, je suis passée d'une part par la communauté française qui est très active ici, je trouve. Et d'autre part, par différentes activités sportives, notamment aller courir avec des clubs de course où j'ai rencontré des gens et après je ne suis plus jamais allée courir, mais j'avais rencontré des gens. Et donc, faire ce genre d'activités comme ça pour essayer de rencontrer au maximum des personnes de tous horizons, quoi, parce que quand on ne travaille pas et qu'en plus on connaît personne, c'est assez difficile.
Ok, tu as commencé à rencontrer du monde, tu as commencé un peu à te faire ton petit réseau. Ça a été quoi l'étape d'après, alors, dans ton installation à Boston ?
Donc, une fois que je connaissais quelques personnes et puis qu'on était installés, j'ai commencé à chercher un emploi. Et là, c'est posé la question de quel emploi ? Donc, parce que moi, j'avais travaillé comme ingénieur. J'avais pris un congé de mon emploi en France, donc je suis en congé pour l'instant. Et du coup, je m'étais dit, est-ce que je continue en tant qu'ingénieur ou pas ? Et puis, j'avais ce doux rêve depuis mon adolescence d'enseigner. Et puis, je m'étais dit que puisqu'on était ici pour a priori 3 ans, je voulais mettre à profit ces 3 ans pour tester ce doux rêve et essayer d'aller... de trouver le moyen, en 3 ans, de me retrouver dans une classe à enseigner et voir si ça me plaisait ou pas.
D'accord. Et alors, du coup, comment est-ce que tu as fait ? Tu as cherché, tu voulais enseigner en français, en anglais, tu as visité des écoles. Enfin, ça a été quoi ta démarche, là ?
Alors, j'ai eu de la chance. Comme souvent, je pense que c'est un facteur qui est quand même relativement important, parfois. J'ai pu... rencontrer quelqu'un qui était aussi originaire de Martinique et qui travaillait à l'école française ici et qui m'a mise en relation avec l'école française. Ce qui était pour moi, travailler à l'école française, c'était découvrir ce nouveau métier, voir si ça me plaisait toujours, en m'enlevant la difficulté de la langue, parce que se retrouver face à des enfants, des adolescents qui ne parlent pas français, qui parlent qu'anglais, même si on parle un peu anglais, c'est quand même
encore plus difficile, je trouve, que dans un milieu professionnel où les gens vont peut-être être plus indulgents aussi. Les enfants et les adolescents sont peut-être le sont peut-être un peu moins. Donc c'est vrai que ça me faisait plus peur. Et donc j'ai eu la chance de me retrouver en contact avec des personnes de l'école française de Boston. Et du coup, j'ai pu, de fil en aiguille, y évoluer, donc pour avoir un premier emploi qui me permettait de me familiariser avec l'école et avec les étudiants, voir si ça me plaisait d'être entourée de plein d'adolescents toute la journée. Et puis, au fur et à mesure, d'y travailler depuis que je suis arrivée, en fait, quasiment. Et aujourd'hui, de pouvoir enfin avoir ma classe et d'être officiellement une professeure avec sa classe à elle.
Ok, donc du coup, c'est tout récent. Tu as un poste à temps plein d'enseignante de sciences, c'est bien ça ?
Ouais, alors à temps partiel, mais ouais, c'est ça, enseignante de sciences.
D'accord, génial. Alors, cette reconversion, un succès ou est-ce que tu as encore envie de creuser d'autres horizons ?
Alors, un succès parce que je me suis confortée dans l'idée que j'aime ça. Vraiment, ça me plaît. Et je suis très contente de l'avoir fait et de le faire aujourd'hui. Et en même temps, je suis quelqu'un d'assez curieux et qui a toujours besoin d'être occupé avec plein de choses, plein de projets. Et du coup, c'est vrai que en parallèle, j'ai bien envie de continuer à évoluer dans un monde qui est autre et peut-être rester avec un pied dans l'entreprise, en fait, donc continuer un peu à creuser à côté.
D'accord, d'accord. Et puis alors, mon petit doigt m'a dit aussi que tu étais bénévole au sein de la communauté French Tech locale, c'est bien ça ?
Oui, depuis peu, là, je me suis... justement parce que... alors, j'adore mon travail à l'école, mais c'est vrai que j'avais envie, en parallèle, de pouvoir... continuer à évoluer dans ce monde de l'entreprise, on va dire, pour faire court. Mais ouais. Du coup, c'est vrai que la French Tech Boston, quand j'en ai entendu parler, m'a paru être un bon moyen d'avoir ces deux aspects-là et d'y être bénévole. Ça me semblait être, ouais, être un bon moyen de donner un petit peu de mon temps.
Donc, toi qui travailles dans l'enseignement, l'école française internationale à Boston, donc ça veut dire que tu travailles donc avec des enfants qui vivent dans deux cultures la plupart du temps. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que tu vois des difficultés qui sont propres un petit peu à l'expatriation ? Est-ce que tu vois aussi des gros avantages ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Comment ça se passe chez les enfants ?
C'est une bonne question et c'est vrai que pour le coup, l'école internationale, c'est vrai que c'est un bon moyen de se retrouver face à toutes ces différences culturelles. Et que ce soit, alors tu me poses la question chez les enfants, mais c'est aussi vrai au niveau du personnel de l'école, parce qu'on a aussi des différences culturelles et qui peuvent aussi être ressenties au niveau du personnel et pas que des enfants. Je trouve que pour les enfants, c'est une richesse incroyable d'être dans un mélange de cultures, que ce soit d'un point de vue personnel chez eux, entre le fait de vivre ici et même s'ils ont des parents qui sont tous les deux français, par exemple, ils ont déjà cet écart culturel. Mais en plus, il y a beaucoup d'enfants qui ont les deux parents de cultures différentes, plus la culture américaine, où certains n'ont pas la culture française à la maison, mais l'ont à l'école. Enfin, ça fait des mélanges extrêmement riches. Et je trouve que les enfants, en tout cas, sont très ouverts d'esprit. Et c'est, à mon avis, en grande partie du fait de cette diversité culturelle.
C'est super. Alors, est-ce que tu aurais des conseils pour des parents qui réfléchissent donc à une expatriation, que ce soit aux États-Unis d'ailleurs ou ailleurs, à comment préparer peut-être les enfants à vivre une expatriation pour pouvoir s'épanouir à l'étranger.
Je ne sais pas vraiment si j'aurais des conseils, mais en tout cas, se dire que, dans la majorité des cas que je peux voir, les enfants en sont ravis et s'en sortent, on va dire, très bien, parce que parfois, on entend beaucoup de personnes qui ont des craintes sur le fait de s'expatrier parce qu'ils ont des enfants et donc c'est plus difficile. Mais au niveau des enfants, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que, au contraire, c'est un apport et une ouverture d'esprit incroyable pour eux, que ce soit l'apprentissage de la nouvelle langue, parce qu'ils se retrouvent, certains sont arrivés sans parler un mot d'anglais, ils se retrouvent lâchés dans un système où d'autres élèves parlent très peu français et ça crée des échanges incroyables et des progrès hallucinants. Et donc, le seul conseil que je pourrais avoir, je pense, c'est de juste pas trop avoir peur.
D'accord, avoir confiance en ses enfants finalement, parce que les enfants s'adaptent très très vite.
C'est ça, d'avoir confiance en eux et de se dire que ils en retireront énormément de positifs en fait.
Du coup, donc toi aussi, on a parlé un peu de ton choc culturel à Paris, en France, lorsque tu es arrivée, donc que tu as quitté ta Martinique natale, mais finalement aux États-Unis. Comment s'est passée l'arrivée dans le monde du travail?
Alors moi, du fait que je pense que du fait que je travaille dans une école internationale française, j'ai eu assez peu de différences culturelles en arrivant ici. Il y en a un petit peu parce que bon, dans les écoles, on fonctionne pas exactement pareil que dans les écoles françaises quand même. Ici.
Ah bon, c'est quoi les grandes différences?
Il y a des différences dans le fait qu'ici, on est quand même, les Américains sont quand même, vont dire la même chose avec beaucoup plus de douceur et en tournant un petit peu plus autour du pot avant de dire la chose quand ce sont des choses négatives, je veux dire. Hein.
Ah, c'est un petit peu le concept du sandwich dont Laura nous parlait il y a quelques semaines.
Le compliment sandwich, exactement. C'est exactement ça, et c'est vrai que quand, alors en ce qui me concerne, en tout cas, c'est pas du tout ce qui me vient naturellement. On va dire ça comme ça. Et c'est vrai que bah, ça, par exemple, il faut s'adapter un petit peu, et que dans le monde du travail, il faut quand même un petit peu prendre en compte le fait que bah, on est aux États-Unis et que ça fonctionne pas pareil ici et en France, quoi. Donc c'est vrai que le compliment sandwich, par exemple, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique d'ici. Donc je sais pas si je suis un vrai, enfin, du coup mon arrivée dans le monde du travail est un peu différente et pas très propre à quelqu'un qui arrive pour travailler aux États-Unis quoi, de ce fait-là.
Bon, question piège, tu te vois où dans 5 ans là du coup? Parce que tu m'as dit que t'étais là pour 3 ans. Est-ce que c'est quelque chose de renouvelable ou est-ce que vous irez dans un autre coin du monde ou est-ce que vous pensez rentrer en France? C'est quoi les ambitions, les plans pour le
Alors c'est une superbe question évidemment. Donc on a un visa de 3 ans. Là on vient de démarrer notre 3e année justement. On peut prolonger ce visa de 2 ans maximum. Donc c'est ce qui on va pour l'instant, on va lancer les démarches là pour essayer de le prolonger. Et donc on va dire si tout se passe bien, on peut rester 2 années supplémentaires. Dans 5 ans, je t'avoue que je ne sais pas. Je n'aurais jamais, mais alors jamais pensé vivre à Boston un jour. Alors je m'avance plus. Je ne sais plus.
Voilà. D'accord, donc qui vivra verra et on verra.
C'est
bien,
ça, voilà. On verra selon bah, les opportunités au fur et à mesure et puis selon nos envies, la vie d'ici là. Voilà, je m'avance plus, mais je suis assez ouverte à pas mal de choses. Rester un petit peu ici, aller vivre dans un endroit un petit peu plus au chaud.
Écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. La chose qu'on aime bien apporter à la fin de chaque épisode, c'est une petite visite des États-Unis de notre invité. Enfin, des États-Unis, puisque toi, tu es aux États-Unis, ça peut être n'importe quel pays. Alors, Elsa, est-ce que tu pourrais me dire où est-ce que tu aimes te poser pour boire un café dans ta ville?
Ah, c'est une bonne question. Alors déjà, je ne bois pas de café, on a un problème. J'aime beaucoup, beaucoup me poser le long de la Charles River, sur l'esplanade. C'est un endroit que j'adore et j'adore voir les bateaux et tous ces voiliers passer le long de la Charles River. Je dois avouer que j'aime beaucoup cet endroit-là et j'aime aussi beaucoup près de Harvard, sur un des jardins de l'université d'Harvard que j'aime beaucoup aussi et où je vais m'installer régulièrement juste pour prendre un petit peu l'air.
Est-ce qu'il y a un endroit pour toi à Boston, du coup, qui résume un peu la quintessence de la ville? Qu'est-ce qui est... Ah, mais ça, c'est So Boston, quoi.
Je dirais que... Alors, il y a plusieurs choses. Je trouve que quand on est typiquement à un endroit comme Copley Square, où on voit toutes ces différences d'architecture, et tous ces bâtiments qui sont extrêmement différents les uns des autres, je trouve que ça représente bien Boston parce que on passe d'un monde à un autre quand on change de quartier, je trouve, et de cette petite vie de quartier. Et je trouve que d'avoir toutes ces différences à un même endroit, ça représente bien la ville et en termes géographiques et en termes culturels, parce qu'on a énormément de gens, je trouve, qui viennent de partout dans le monde. Je rencontre sans cesse des personnes qui sont pas forcément américains, mais qui sont d'un endroit en Europe ou d'ailleurs. Et c'est vrai que je trouve que ça représente pas mal Boston.
S'il y avait un endroit que tu devais décrire à nos auditeurs, qui est ton endroit favori de vacances aux US, c'est quoi ?
Ah, j'aurais bien aimé pouvoir connaître encore plus des États-Unis, parce que je suis sûre que du coup, il y aurait sûrement des endroits qui correspondraient encore mieux. Pour les endroits où je suis allée, je dois avouer que j'ai eu un petit faible pour Key West, probablement aussi du fait que ça m'a beaucoup rappelé les Antilles, d'un point de vue justement culturel. Et puis aussi d'un point de vue en termes aussi de végétation, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant d'avoir cette végétation luxuriante, un petit peu comme à la maison. Donc un petit clin d'œil pour Key West.
Écoute, merci beaucoup, un grand merci pour cette belle rencontre. Merci d'avoir partagé toutes tes expériences en France métropolitaine et à Boston. Si nos auditeurs veulent continuer à suivre tes aventures, où est-ce qu'ils peuvent te trouver ?
Sur Instagram, par exemple, avec le compte Flip-Flop en Vadrouille.
Encore merci de nous avoir fait voyager et d'avoir partagé ton histoire avec nous. On te souhaite une excellente continuation. Merci Elsa.
Merci beaucoup à toi.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un avis sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée, c'est le meilleur moyen de nous aider. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions, ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, ou même LinkedIn, French Expat, le podcast tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, direction notre site web frenchexpatpodcast.com. Le prochain épisode, c'est avec Laetitia et quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours. Excellente semaine à tous et à très bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.